200 milliards depuis que nous sommes nés, hein. Il y en a 200 milliards d'êtres qui ont été avortés, qui ont notre âge et moins, n'est-ce pas? Donc, vous les portez, il faut leur parler, rentrer dans leurs âmes, dans le monde, dans l'océan, le pavement de cristal, vivant, immaculé, limpide, subtil et lumineux, qui est leur ouverture, dans laquelle nous pouvons pénétrer par la grâce. Et donc, la parole de Dieu, le Verbe de Dieu pénètre en eux, en transverbant à travers nous. Ils entendent la bonne nouvelle. Ils sont sous l'autel et ils sont depuis la parole que le Saint-Père a prononcée en s'endormant. Il y a aujourd'hui, c'est la 18e année, alors on a accès. On peut pénétrer par la grâce des trois blancheurs qui trouvent son unité incarnée en nous. Alors, la parole de Dieu l'annonce, l'évangile, la bonne nouvelle est annoncée à ces enfants que nous portons, puisque nous portons dans notre conception tous ceux qui sont conçus depuis notre conception. C'est ce que fait la grâce catholique. Nous les portons en nous. Alors ce que nous entendons, c'est pour qu'ils l'entendent. Parce qu'on est unis à eux. Alors regardez l'évangile. C'est l'évangile de Saint-Irénée. Hein. C'est l'évangile de... Pour expliquer, quoi. Si en lisant cet évangile... Si en entendant cet évangile, on n'a pas attendu le message infaillible et rendu efficace et fécond à partir d'aujourd'hui de Saint-Irénée, c'est que vraiment on est sourd. On est complètement sourd. C'est normal qu'il y ait le méchaume. Le méchaume fait que il y a une surdité qui s'introduit dans tous ceux qui ne sont pas, qui ne font pas partie par choix de la Jérusalem dernière, de l'Église qui vient. Regardez. Le temps est arrivé. Jésus est monté dans la barque de Pierre. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est Saint-Irénée et la doctrine et le pape et nous tous qui disons que l'heure est arrivée où Jésus revient sur la terre. Et il habite réellement, il vient réellement dans la barque de Pierre, dans l'église de la terre. C'est pas pareil être dans la barque de Saint-Pierre avec Jésus qui n'est pas dedans, et puis à partir d'aujourd'hui, Jésus est dedans. À partir d'aujourd'hui, vous comprenez bien, le Saint-Père a proclamé Irénée docteur de l'église. C'est la première fois que Irénée est fêté au ciel et sur la terre, eucharistiquement, depuis que cette porte s'est ouverte pour que la proclamation trouve son terme efficient, efficace, voyez. Jésus est monté dans la barque de Pierre. C'est aujourd'hui qu'on lit cet évangile-là. Et tous les saints, tous les apôtres, tous les successeurs des apôtres, tous les disciples, tous ceux qui l'ont suivi, tous ces disciples descendent dans la barque de Pierre avec lui. Je connais une petite stigmatisée, mais que j'aime beaucoup, elle est toujours vivante, italienne. Et le Seigneur lui a donné un secret, c'était en 1993. Elle est venue me voir à l'Ermitage, quand j'étais dans les Pyrénées, un de mes 17 Ermitages. Et En 93, c'était au début pour elle. L'huile de... qui est devant le trône de la... qui est dans, à l'intérieur du trône de la résurrection de l'Église, ressuscité. Dans l'Église ressuscitée, il y a Jésus, il y a Marie, il y a Joseph et il y a Jean. Les quatre ressuscités d'entre les morts. Hein. Et au milieu d'eux, un olivier. C'est-à-dire le Christ. Dans l'unité de son corps mystique ressuscité. Ils sont quatre dans l'unité d'un corps, d'une seule résurrection. Eh bien, le Christ, l'olivier, le fruit de l'olivier, veut répandre son huile. Et nous, nous laissons, nous demandons à l'huile, à cette huile-là, de se répandre en nous, dans la reine du Sacré-Cœur. Bref, elle vit de ça, cette petite. Elle vit de ça. Et l'huile suinte, ça, du coup, c'est l'huile pérenne venue du ciel. On recueille cette huile. Elle recueille cette huile. Oui, là, la Vierge qui est là. Et il lui donnait en même temps un secret. Et ce secret de 1993, que qu'elle n'a jamais révélé, sauf depuis très peu de temps. C'était 2005. Peu importe l'année où le monde entier a décidé de rentrer dans le sanctuaire de la paternité de Dieu pour la dévaster. C'était en 2005. C'est à partir de ce moment-là qu'elle a reçu le secret, qu'elle a pu dire le secret en question. Et le secret, c'est de dire que Jean, Yohanan ben Zebeda, est descendu du ciel, comme ressuscité d'entre les morts, est descendu et il vit sur la terre avec nous. Et il vient par assimilation prendre les choisis de Dieu pour qu'ils vivent la même grâce que lui dès cette terre. C'est un joli secret, je trouve. On se demande que c'est quoi le secret de mes guerriers, c'est quoi le secret. T'inquiète pas, va. Jésus est monté dans la barque à un moment donné. Et ses disciples, enfin, ceux qui sont avec lui dans la résurrection et dans la vision béatifique aussi. Et voici, alors du coup, voici, regarde, enfin, du coup, contemple, regarde ce qui se passe à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe donc dans notre temps? Qu'est-ce qui se passe dans nos années? Qu'est-ce qui se passe dans ces mois? Qu'est-ce qui se passe dans ces jours? Dans ces 153 jours, qu'est-ce qui se passe? Regarde bien. Voici, vois, regarde, c'est ici. C'est là. La mer s'agite. Le temps. La mer, ça représente les temps. Tout le temps. Ça représente le mystère du temps. C'est chaque seconde compte. Regarde, la mer est tellement agitée que la barque était recouverte de vagues. Aussitôt que Yashikusim et Shemem aussi, aussitôt que Jésus rentre dans la barque, aussitôt que l'heure de l'Église est annoncée, pas seulement annoncée, parce qu'ils sont dans la barque, on n'y prête pas garde parce qu'aussitôt, la mer s'agite, les temps s'agitent, le monde du temps s'agite. Dans une colère épouvantable, pour que la barque de Pierre, l'Église, la présence de Dieu soit entièrement recouverte par les eaux du temps, qu'on ne regarde que ça, que ce qui vient du temps, l'esprit de ce monde. La colère de Satan, de Lucifer, Hein, le dernier coup de queue du dragon, des quatre bêtes de l'Apocalypse, de l'Antéchrist, de l'esprit de l'Antéchrist recouvre la barque, mais elle n'a pas coulé. Je suis dedans. Parce que Jésus, lui, est dans la barque. Et il dormait. Il dort sur un coussin en plus. En plus, c'est sur un coussin. Ah ! Il dort et se repose dans le sacré cœur de Jésus vécu par le corps mystique vivant de Jésus vivant de la fin du monde, de la fin des temps, de son royaume accompli. La dormition. Jésus vit de la dormition de Marie dans le temps de la fin de l'Église. Attardement, un sommeil mystérieux, c'est un mystère de mariage, de sponsorité vécu, corps, âme et esprit en nous, engendré par elle dans la mise en place du corps spirituel venu d'en haut. Ah, cet évangile formidable, c'est presque mot à mot. Hein, alors, et il dormait. Alors, heureusement, tous les disciples, tous ceux qui ne sont pas ressuscités, il y en a beaucoup, vous savez, Saint Irénée par exemple. Ils sont dans la vision béatifique, mais ils ne sont pas ressuscités d'entre les morts. S'approche de l'église de la résurrection et de la dormition. S'approche, et nous aussi, bien sûr, avec eux, et les enfants aussi, s'approchent, dès qu'ils en entendent parler, à travers, lorsque nous entendons, proclamons ça, en visitant chacune de leurs âmes, et toutes ensemble, ils s'approchent de ce mystère, de cette réalité, c'est un mystère pas quelque chose qui est impossible à comprendre, mais de ce mystère au sens où c'est la réalité. C'est le mystère de la foi, c'est la réalité, la vraie réalité. La vraie réalité, c'est pas le méchaume, cette espèce de tempête démoniaque qui renverse le monde entier. Elle ne renverse pas l'Église parce que les disciples s'approchent de Jésus qui dort. Et puis, il le supplie de faire, dans une soif inouïe, dans un cri ardent, dans une expression brûlante. C'est presque toute leur activité de disciple à l'intérieur de la barque de l'Église, de réclamer. Que Jésus se lève et que la parousie, que l'heure s'ouvre, que le temps s'ouvre, de l'ouverture des temps. Il dit, voyez, on a une soif, on ne vit que de la parousie. On est fixé sur la Jérusalem qui doit s'ouvrir et se lever. Manière libre, lumineuse, explicite en nous, au milieu de ce monde entièrement bouleversé et englouti par les eaux qui sortent des têtes du dragon. Le temps de ce monde est terminé, le temps de l'esprit de ce monde est terminé, parce que les chrétiens disent « Seigneur, sauve-nous, nous sommes dans la perdition. » Si les temps ne s'ouvrent pas, comme le proclame le Saint-Père dans l'unité des trois blancheurs vivantes, dont nous sommes l'incarnation, dans la transformation surnaturelle de notre vie sur la terre, à ce moment-là, si pas les yeux fixés sur la Jérusalem qui est conçue, mais elle doit naître. Alors, l'Église est perdue, c'est sûr, mais elle sait que quand elle réclame que Jésus se lève, passe de la dormition à la présence de sa résurrection, alors il leur dit, se lève, Jésus se lève, Jésus se réveille. C'est extraordinaire d'ailleurs ça, parce que Jésus se réveille, et il se réveille, il n'est pas encore debout, hein. Il est encore là, sur le coussin, à l'arrière du bateau, du navire de l'église. Il ouvre les yeux, ça c'est le cinquième saut de l'Apocalypse. Il leur dit, mais pourquoi avez-vous peur, vous savez? Il se réveille, c'est pour la présence de la résurrection de Jésus, Marie, Joseph et Jean, s'éveille à l'intérieur de tous les disciples et de toute l'Église de la terre. Le temps de la relation sans voile entre l'Église de la résurrection et l'Église de la terre est arrivé. C'est le cinquième saut de l'Apocalypse. N'ayez pas peur. Vous n'avez donc pas la foi. La foi de l'Église, c'est la foi de la Jérusalem dernière. C'est que la résurrection s'inscrit dans l'Église, dans le temps de l'Église, dès cette terre. C'est le message d'Irénée. Et ensuite, il se met debout. Ça. Il se met debout. Et en se mettant debout, c'est le principe du cinquième saut de l'Apocalypse qui fait de nous, dans la mise en place du corps spirituel, une montée du royaume de Dieu jusqu'à la toute puissance du royaume de Dieu dans la terre qui est la nôtre. Ce passage du cinquième au sixième saut de l'Apocalypse est assez court. Il durera, comme on dit chez nous, il durera 19 ans. C'est très court par rapport. C'est 100 fois moins que le temps de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Il sera très court. Mais le temps que le corps spirituel puisse grandir, puisque biologiquement et spirituellement, la conception habitée du corps de l'homme vivant saisi par la grâce de son assimilation, par assimilation de la grâce de Jésus, Marie, Joseph, du règne du Sacré-Cœur, de Jean, nous sommes dans leur... nous les accueillons et nous sommes un aller-retour ici, on n'a pas besoin d'aller au ciel, et par assimilation, nous sommes... Nous nous rayons de plus en plus dans le corps spirituel qui doit être celui qui est le nôtre dans la résurrection. Il se met en place. La mise en place du corps spirituel venu d'en haut grandit jusqu'au mariage spirituel, jusqu'à la sponsalité accomplie en plénitude, reçue. Alors Jésus est tout à fait debout et il menace le temps explicitement. C'est le sixième saut d'Apocalypse. Et dans le sixième saut d'Apocalypse, vous le savez, l'Antichrist, la terre s'est ouverte, mais la terre de Dieu s'est ouverte. Et l'Antichrist a été englouti. Il est fini. Au bout de ce temps extraordinaire dans la tempête, le méchant est toujours là. Hein. L'Antichrist s'énerve, mais comme il ne peut pas le voir, nous vivons cela sans être vus. Nous ne dormons pas. Mais lui, il ne voit rien. Comme dit saint Augustin, ça l'énerve, ça le scandalise. Abstrusior, memoriae, nostre, divine gratiae ultime. Saint Augustin, à propos Parce que nous vivons à partir de la paternité vivante de Dieu, dans le corps spirituel de la résurrection, engendré en nous dès cette terre. Alors, le temps, je veux dire la tempête, le temps étant, la tempête s'arrête, quoi. Et se fit un grand calme. Et les gens furent saisis d'étonnement. Et ils disaient, mais qui est celui-ci? Pour que même les vents, c'est-à-dire le vent, ça représente le souffle de la vie, tous les vents, tous les souffles de vie commençant, tous les souffles de vie qui ont commencé pour de manière immortelle, tous les vents, tous les êtres vivants, mais aussi bien sûr les êtres de vie qui ne sont pas les hommes, hein, tous les êtres de vie, toutes les plantes, tous les oiseaux, tous les êtres de vie, tous les enfants resplendissent à l'intérieur de la Jérusalem nouvelle. Et donc ils ont les yeux fixés sur cet épisode d'Apocalypse. C'est le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Tous les êtres de vie, tous les vents, qui sont les apôtres de l'aspiration à la venue du Fils de l'homme sur les nuées du ciel. C'est un résumé extraordinaire, chapitre 1, ces quatre versets du chapitre 8 de saint Matthieu. Et le fait que l'Église nous donne, l'Église du ciel, hein, si l'Église du ciel, l'Église de la terre, le propage, le jour de la Sainte Irénée, ça veut dire quelque chose. Le premier texte aussi, on l'a vu tout à l'heure, parle parfaitement bien du jour d'aujourd'hui et des 153 jours qui viennent. Alors on va célébrer la messe. Et on va le faire, hein, pas tout seul, hein, avec tous ceux que nous portons, puisque nous portons en laissant Dieu visiter en cette Eucharistie notre conception. Voir notre conception entièrement transformée dans l'Immaculée Conception. La maternité divine de Marie sur tout ce qui existe, dans l'infaillibilité de l'Église et l'ouverture des temps. Et en vivant de ça, réellement, j'allais dire corporellement, mais aussi lumineusement, invisiblement, et en même temps visiblement, à nos yeux, je veux dire visiblement, et invisiblement aux yeux de l'esprit de ce monde, mais aussi de manière subtile, agile, à cette capacité de venir à vivre ça en pénétrant chaque instant. Tous les êtres vivants qui ont existé, tous les êtres vivants qui existent, tous les êtres vivants qui existeront dans une bilocation propre à la vie chrétienne. Une bilocation universelle. Puisque nous habitons par amour à l'intérieur de chaque âme qui n'est pas la nôtre. Il y a la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande des trois, c'est la charité. Et elle doit être parfaite, accomplie, en plénitude reçue. À partir d'aujourd'hui, c'est cette grâce qu'elle nous a pénétrée et qui doit transformer même notre chair, jusqu'à la matière, même inerte, qui traverse et qui se déploie de nous, dans notre corps spirituel, mis en place dans l'ouverture des temps. Le règne du Sacré-Cœur doit se répandre dans le monde entier, à partir d'une grâce méritoire, parce que c'est dans la foi. Mais la foi accomplie en plénitude reçue. Par le baptême, nous avons reçu cette lumière surnaturelle de la foi pour qu'elle puisse s'épanouir dans un accomplissement en plénitude reçue dès maintenant. C'est ça que le Père Jean Fournier nous a appris. Faire oraison. dans notre âme. Mais aujourd'hui, il faut faire en raison dans notre âme et dans ce qui est à l'intérieur du corps spirituel, matière vivante de notre corps, transformée par de la même transformation que celle de l'âme dans le mariage spirituel et la spensalité glorieuse établie sur la terre. C'est extraordinaire le message de Saint-Irénée. Cette grâce-là sera donnée effectivement, réellement, complètement, jusqu'à la racine et à l'accomplissement, à plénitude, aux catholiques de la terre au jour de l'ouverture des temps. Et comme nous savons très bien que l'ouverture des temps est pour nous, on n'en vit pas pour ceux qui nous viendront après nous. Hein, c'est maintenant. C'est extraordinaire ce message-là. Pendant que tout le monde s'inquiète, on va tous mourir. Vite, 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 il faut vacciner tout le monde. Vite, 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 il faut trouver des moyens naturels pour guérir. Mais non, il n'y a pas de moyen naturel pour guérir. C'est l'huile qui remplit nos fioles dans le corps spirituel. Celle-là a guéri tout. Bien sûr que la violette a des vertus curatives. C'est sûr. Bien sûr, la violette a des vertus curatives. Mais c'est sa réalité qui a des vertus curatives et qui resplendit jusque dans le corps. Et la réalité qui est derrière l'être de vie végétatif qui est celui de la violette, cette fleur, c'est l'humilité. Et quand l'humilité devient substantielle, alors la violette a des vertus curatives sur toute la terre. C'est ça, Saint Hildegarde. C'est pas la violette comme ça séparée. C'est la violette de la fin. À cause du corps mystique vivant de Jésus, du règne Sacré-Cœur. À cause du royaume, la cause, grâce méritoire, la charité du roi, qui est mollet. Formait, illuminé, vivifié, transfiguré d'une humilité substantielle. Substantielle. Dans l'acte pur de cette humilité, c'est la grâce qui s'écoule en nous, qui doit s'écouler en nous, qui va s'écouler en nous, jusqu'à déborder, et ce sera le sixième saut de l'Apocalypse. Parce qu'il faudra du temps pour que ça finisse par déborder. Et on sait exactement combien de temps ça prendra. Dans l'histoire du temps de l'humanité, on sait exactement. C'est extraordinaire, l'Église, elle sait tout. Sauf ceux qui ne s'intéressent pas à ce que dit l'Église. Il y a plein de gens qui sont dans l'Église qui ne s'intéressent pas à ce que dit l'Église. Ils ont des inquiétudes terrestres. Et bien sûr que les... Bien sûr, évidemment. Bien sûr que l'épôtre aura des vertus curatives. Bien sûr. Mais c'est en raison de sa substance glorieuse mise en place dans les temps. Dans le temps de l'Église, dans le temps de l'Église accomplie. Parce que la véritable épôtre, c'est le dépassement du blé, c'est le dépassement, c'est la surabondance éclatante de l'Eucharistie dans la Jérusalem dernière de l'Église. le fruit des sacrements. Il y aura eu beaucoup de travail eucharistique pour arriver jusqu'à l'apôtre. Alors les vertus curatives de l'apôtre pourront s'exercer, mais déjà par anticipation, elles peuvent s'exercer en raison de ce lien direct sans voile avec ce qui est sa substance dans le corps spirituel de la résurrection universelle. Hein, c'est en raison de ça. Et nous, lorsque nous faisons descendre en nous l'huile qui se déploie de la véritable apôtre, hein, c'est-à-dire du déploiement eucharistique des noces de l'agneau, si on a envie, la transverbération de notre chair dans la dormition de l'Église, du sixième sceau de l'Apocalypse, si on va vers ça, si on a envie déjà, par anticipation, par appropriation, par puissance, à ce moment-là, oui, c'est vrai, nous donnons dès maintenant à l'apôtre sa vertu curative. Mais on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais sauf nous, nous sommes perdus. Parce que si nous sommes dans la perdition, on prend uniquement les vertus curatives séparées de sa source. Et la source, c'est l'Église du cinquième sceau, du sixième sceau de l'Apocalypse. Voilà, Alain Bassa, c'est beau, je trouve ça. C'est un beau message qui est donné à tous les êtres de vie, tous les vents, et à chaque instant présent. Parce que du coup, comme le cinquième sceau de l'Apocalypse va s'ouvrir, à l'intérieur de chaque instant présent, nous pouvons pénétrer, et non pas ceux qui sont de l'Antéchrist, marqués par le signe de la bête, mais ceux qui ne sont pas marqués du signe de la bête, peuvent rentrer visiblement, explicitement, lumineusement, à l'intérieur de chaque instant présent, pour faire jaillir à l'instant de chaque présent sa lumière et sa vivification intérieure pour l'engloutir dans le temps éternel de la vie divine descendant du ciel sur la terre. Chaque instant nous appartient. Nous avons autorité sur chaque instant présent dans le règne Sacré-Cœur. Sans être vu, parce que cet instant présent, ou du moins sa vie intérieure, son illumination, sa lumière et sa vivification dans le lien sans voile avec la grâce de la vie éternelle, n'est pas visible aux yeux de ceux qui ne font pas partie de l'Église. Mais ils vont pouvoir constater la disparition de l'Antéchrist, ça, ils pourront le constater. C'est-à-dire son résultat extérieur. Parce qu'après, le démon est toujours présent, parce que l'esprit de ce monde et l'Antéchrist disparaissent, que Lucifer, et le démon sont morts. Hein? Mais à ce moment-là, ils sont morts, mais ils vont courir partout autant qu'ils peuvent, avec toute leur puissance, autour de ceux qui sont restés sur la terre parce qu'ils ont été. Ils ont préféré la tiédeur. Mais ils suivent les commandements de Dieu quand même. Ils suivent les invitations de Dieu. Il va essayer d'en attraper quelques-uns. Pour qu'ils soient emportés avec lui dans la damnation éternelle. Ce sera seulement quelques-uns, vous savez. Et c'est là que l'épître de Saint-Pierre nous explique que ce sera terrible pour ceux qui ne sont pas rentrés dans le 5e, 6e saut de l'Apocalypse. Ils disent, nous y rentrerons, mais plus tard. Et ça, il n'y a pas que des catholiques qui sont tièdes. Il n'y a pas que des catholiques qui sont tièdes. Il y a d'autres aussi. Il n'y a pas que les autres qui ne sont pas catholiques qui sont tièdes. Chez les catholiques, il y a des tièdes aussi. Voilà, le message Saint-Irénée. Merci Saint-Irénée de nous avoir expliqué. Parce que... Et merci d'avoir frappé la porte de Saint-Père pour dire que c'était maintenant. Et merci pour Seigneur Jésus, parce qu'il a ouvert les portes et le pouvoir des clés du ciel dans la terre pour que la chose descende jusqu'à nous réellement, complètement, visiblement à nos yeux et invisiblement dans l'invisible du visible de Dieu. C'est extraordinaire, la clé de la Jérusalem dernière où nous sommes rentrés. Ne vous inquiétez pas, je vais dire la messe. Mais j'ai tout à fait conscience que c'est pas n'importe quelle messe. Elle s'unit à toutes les messes qui devraient être dites dans la grâce qui correspond et qui n'ont pas été dites. Toutes les messes qui auraient dû être dites et qui n'ont jamais été dites. Et toutes celles qui sont dites et qui ne pénètrent pas dans la grâce dans laquelle elles doivent être dites. Et toutes les messes qui seront dites.